Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit : Tu es le Christ. Alors Jésus leur défendit vivement de parler de lui à personne. À votre avis, est-ce que Pierre a fait une bonne ou une mauvaise réponse ? Parce que finalement, si c'est une bonne réponse, pourquoi se taire ? Mais si c'est une mauvaise réponse, en quoi est-ce que c'est une mauvaise réponse ? Bah, tu es le Christ, oui, c'est ce que Jésus essaie de faire comprendre depuis le début de l'évangile. Donc que Pierre y arrive, ils disent ça, bah, ça paraît logique. Donc pourquoi est-ce que Jésus demande à Pierre de se taire alors que apparemment c'est une bonne réponse ? Eh bien, il y a une chose simple que l'on peut observer, c'est que il n'est pas si sûr que Pierre, en fait, ait vraiment compris le sens de sa réponse. Alors, je ne dis pas qu'il a répondu au hasard et qu'il a eu la bonne réponse sans faire exprès, mais en tout cas, il n'est peut-être pas allé vraiment au bout de ce que ça voulait dire. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas que à Pierre que Jésus demande de se taire dans l'évangile. On le voit beaucoup dans d'autres évangiles, c'est que Jésus demande aux démons de se taire. Vous savez, parfois, les démons disent « Ah, on sait qui tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, etc. » Et là, Jésus leur demande de se taire. Pourtant, ce qu'il dit, c'est correct. Oui, mais. C'est correct, oui, mais. Et en fait, ce que Pierre dit, c'est correct, oui, mais. En fait, il n'a pas vraiment compris le sens de sa propre réponse. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de l'évangile, quand il refuse, en fait, que Jésus s'abaisse, qu'il souffre, qu'il soit flagellé. Alors tout à coup, eh bien, Pierre change de visage. Et au fond, ce qu'il y a derrière la réponse de Pierre et devant son refus, on pourrait dire la chose un peu simplement, c'est qu'il y a comme une tentation de puissance. Au fond, Pierre, il a bien compris que Jésus, c'était le Messie. C'est pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, en gros, c'est un winner. S'il est dans le camp des vainqueurs, Jésus, pour l'instant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des miracles. Il a ressuscité un ou deux morts. C'est quand même un gars qui en impose un peu, quoi. Et en fait, je pense qu'il devait y avoir quelque chose d'un peu fascinant chez Jésus. En tout cas, d'un peu attirant. Et Pierre, c'est quelqu'un qui a compris que Jésus, c'est quand même quelqu'un de puissant qui sait faire plein de choses. Ben, vous imaginez, vous êtes pêcheur sur le lac de Galilée et votre perspective, c'est de rester pêcheur sur le lac de Galilée et éventuellement de réussir à racheter la barque du concurrent. C'est à peu près ça votre perspective dans la vie. Et là, vous rencontrez un gars qui arrive, qui fait des miracles, qui parle comme personne n'a jamais parlé, les foules entières se déplacent pour aller l'écouter. Et là, ce gars-là, il vous appelle à venir avec lui à sa suite. À Pierre, ni une ni deux, il y va. Vous imaginez un peu le changement de dimension. Sauf que l'on voit ce soir dans l'évangile qu'en fait, Pierre, il a compris le début de l'histoire. Il a compris que Jésus était quelqu'un de puissant, de capable, quelqu'un qui savait faire des grandes choses. Et peut-être que nous, dans notre vie, dans notre relation à Jésus, on en est un petit peu là, en fait, on vient à la messe, parce qu'on a saisi que Jésus, il était capable de faire des grandes choses. Peut-être qu'on a expérimenté que Jésus, il avait fait telle ou telle chose dans notre vie, qui nous a relevés, qui nous a marqués. Peut-être qu'on a entendu des témoignages qui parlent de la puissance de Dieu. Dieu qui est capable de délivrer, Dieu qui est capable de libérer, Dieu qui est capable de remettre debout. Et alors, ça nous attire, parce qu'on voit bien que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et il y a comme une puissance qui se dégage de Jésus, qui fait que, en fait, on veut aller à sa suite. Et donc, on est là ce soir parce que, comme Pierre, on a envie de suivre celui qui est capable de poser des actes de puissance. Sauf que Jésus a bien compris que Pierre est en danger ce soir, en danger spirituel. Il risque de transformer Jésus en belle idole. Il risque d'en faire une idole humaine, c'est-à-dire une projection humaine sur Dieu. Il risque d'enfermer Dieu dans ce qu'il a compris de lui. Il a compris que Jésus était capable d'actes de puissance et donc Pierre pourrait enfermer Jésus dans le portrait d'un guérisseur, d'un faiseur de miracles ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'au fond, moi aussi, ce soir, quand j'entends l'évangile, je réagis un peu comme Pierre. C'est-à-dire, oui, confesser que Jésus est le Messie, ça me va bien. Confesser que Jésus a fait des grandes choses dans ma vie, qu'il est capable d'actes de puissance, en fait, ça me va bien. Je suis d'accord avec ça. Peut-être que j'ai fait l'expérience de la présence de Jésus dans l'Eucharistie et je trouve ça complètement dingue qu'un bout de pain devienne vraiment le corps de Jésus. Et peut-être que si j'en suis là et que, entre guillemets, ça me suffit, eh bien, je suis peut-être en train de me dire, mais en fait, je vais enfermer Jésus dans ce que j'ai compris de lui. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez. Et en fait, Jésus, il a peur. Pardon, pas l'expression, mais Jésus, il a peur que l'on se suffise de ce que l'on a compris de lui, parce qu'en fait, c'est qu'une partie de la vérité et que ça n'est pas tout. Et ce que Pierre a compris, c'est pas mal, c'est le début, mais s'il s'arrête là, ce sera comme une vision déformée de Jésus. Et donc, ce que Jésus dit à Pierre ce soir, et donc ce qu'il nous dit aussi comme parole, c'est que ça n'est pas assez d'avoir compris ça. Dieu, il veut plus que cela. Dieu n'a pas voulu envoyer un magicien sur cette terre. Il n'a pas voulu envoyer un guérisseur. Dieu a envoyé son Fils unique qui donne sa vie pour nous. Et c'est ça que Pierre n'a pas encore vraiment compris. C'est que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui fait des actes de puissance. C'est que la plus grande des puissances de Jésus, c'est de se faire tout petit, humble, de donner sa vie. L'acte de miséricorde par excellence de Jésus, c'est de prendre sur lui l'injustice de nos fautes. Il va être livré, flagellé, condamné, crucifié, alors qu'il n'a commis aucune faute. Et en fait, c'est la seule manière dont Dieu veuille vraiment se révéler à travers cette petitesse, à travers ce qui est pour nous l'exact contraire de l'image de Dieu. Mais demandez autour de vous, faites un micro-trottoir en rentrant, demandez à vos amis quelle image ils se font de Dieu, qui est Dieu pour eux. Mais aucun ne vous répondra que si Dieu est vraiment Dieu, alors c'est un homme, et c'est un homme qui se laisse condamner, et c'est un homme qui va se révéler dans toute sa fragilité et sa vulnérabilité. Dans l'histoire de l'humanité, jamais personne n'a imaginé un Dieu qui se révèle de la sorte. Or, ce que Jésus nous dit ce soir, c'est que si on n'accepte pas ça, on se fait une fausse image de lui. Et que la seule manière de comprendre vraiment qui il est, c'est de comprendre qu'il ne se révèle que dans son abaissement, sa petitesse, sa vulnérabilité. Et au fond, comprendre ça, ça peut changer notre regard sur Dieu, mais aussi notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Dieu, comme dit Bossuet, ne daigne pas descendre dans des âmes trop élevées. Il ne descend que dans les âmes humbles. Quand on se croit un peu trop grand, quand on est un peu trop fier de soi, quand on se regarde avec un peu d'assurance, de fierté, peut-être d'orgueil, en fait, Dieu, il a du mal. On est trop haut pour que Dieu s'abaisse jusqu'à nous. On est trop élevé, on s'élève nous-mêmes et Dieu ne peut plus descendre jusqu'à nous. Quand on entre dans la vérité de celui qui dit « Mais je sais que je ne suis rien sans toi, Seigneur. » Je sais que parfois, te suivre, c'est aussi accepter les humiliations. C'est aussi parfois accepter qu'on se moque de moi au travail parce que je suis chrétien, parce qu'on va me demander ce que j'ai fait hier soir, que je veux dire que je suis allé à la messe et ça va faire rire les collègues, par exemple. Enfin, c'est tout cela, accepter un petit peu les humiliations à la suite de Jésus, c'est ainsi que Dieu peut vraiment descendre jusqu'à nous, descendre dans notre cœur. Frères et sœurs, nous voici plongés dans cette Eucharistie où Jésus va se faire présent au milieu de nous, non pas comme le Tout-Puissant, mais comme le Tout-Humble, celui qui se rend présent dans cette hostie. Que la petitesse de Jésus ne nous effraie pas, qu'au contraire elle nous attire, que nous puissions nous laisser attirer par ce Dieu qui est si grand qu'il se fait si petit, il est si haut qu'il se fait si bas pour venir jusqu'à nous. Seigneur Jésus, tu sais combien dans notre cœur il y a des barrières pour venir jusqu'à toi ou pour que tu viennes jusqu'à nous. Il y a la barrière de la tentation de puissance. Parfois nous t'enfermons dans l'image, le portrait de cet ami puissant qui peut tout faire pour nous. Parfois, Seigneur, nous t'enfermons tellement dans cette image-là que nous refusons qu'il puisse y avoir de la faiblesse, de la vulnérabilité en toi. Et donc, nous la refusons en nous et nous ne voulons pas voir celle des autres. Mais Seigneur Jésus, ce soir, lorsque tu invites Pierre à repenser à ce qu'il a dit, lorsque tu l'invites à creuser le sens de ses paroles, c'est à chacun de nous que tu adresses cette invitation. Seigneur, nous sommes ici ce soir parce que tu nous y invites. Nous venons à la messe parce que nous en avons l'habitude ou peut-être parce que nous sommes rentrés par hasard dans cette église. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui te révèles à nous Et nous savons que tu ne te révèles que dans cette fragilité, cette vulnérabilité. Seigneur, que l'Eucharistie ce soir soit une véritable révélation de ta présence et de ton amour dans ton Église, dans le monde et dans nos vies. Seigneur, que nous puissions nous abaisser pour t'accueillir tel que tu es, que tu témoignes de ton amour, de ta fragilité en nous. Amen.